Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 sur CNews jusqu'à 10h30. Réfléchir à une atténuation de l'excuse de minorité, aider les parents, ouvrir les internats. Ce que j'ai entendu hier pour lutter contre la violence, notamment celle des jeunes, me paraît le remède du mercurochrome sur la jambe de bois. Si Gabriel Attal a les mots justes, quand il énonce le diagnostic, j'attends qu'il précise qui est cette partie de notre jeunesse, cette minorité de nos adolescents dont il parle. J'ajoute qu'aller à Viry-Châtillon avec Éric Dupond-Moretti et Nicole Belloubet pour parler autorité dans la cité, c'est comme vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Gabriel Attal a du talent, et sans doute beaucoup de talent. Il est jeune, il est doué, il est vif. Il use et abuse de formules choc. La République contre-attaque, a-t-il dit. Mais derrière ces mots, il faudra des actes et derrière ces actes, des résultats. Nous sommes lassés des « on sera intraitable ». Nous sommes lassés des « notre main ne tremblera pas ». Nous sommes lassés des grenelles qui ne grenellent rien du tout. Je résumerai ça par une phrase simple. Ça ne peut plus durer. Nous allons dans le mur en klaxonnant. Chacun devine que nous sommes à un point de bascule de la société française. C'est tout l'enjeu de la séquence Objectif 2027 qui a déjà commencé pour Gabriel Attal et tous ceux qui visent la succession d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il est 9h01, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Israël a frappé l'Iran cette nuit en riposte à l'attaque iranienne du week-end dernier. 3 explosions ont été rapportées près d'une base militaire proche d'Ispahan dans le centre du pays. Aucun dégât majeur n'est à rapporter et les installations nucléaires de la région seraient totalement en sécurité. Le professeur en criminologie Alain Bauer nous en dit plus sur le site qui a été visé.
Dans ce cas précis, c'est une base qui a déjà été attaquée en janvier 2023. Donc ce n'est pas la première fois qu'Israël est supposé avoir attaqué l'Iran, parce que pour l'instant, Israël n'a toujours rien dit. Deuxièmement, cette base qui est située à Gajavorstan est une base très importante de l'armée de l'air, d'un centre de production de missiles, et elle défend effectivement une partie des sites nucléaires autour de Natanz.
Dans l'actualité également, Gabriel Attal dénonce un entrisme islamiste prônant les préceptes de la charia. Dans nos écoles, les mots sont forts. Écoutez les explications d'Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité femmes-hommes.
L'entrisme islamiste, ça ne veut pas dire que dans chacun de nos établissements, dans chacune de nos écoles, on a la charia qui s'applique. C'est justement de dire, évidemment... Non mais soyons clairs aussi, c'est de dire... Là où certains veulent déstabiliser nos principes républicains, nous allons y opposer la force républicaine de manière très claire et ne rien laisser passer de manière systématique. Regardez ce qui se passe à Sciences Po, par exemple. Moi, j'étais tellement fière d'avoir fait cette école. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai honte.
Et puis une marche blanche en hommage à Philippe est organisée ce matin à Grande-Synthe. En attendant, l'enquête sur ce meurtre abominable se poursuit. Les deux suspects, âgés de 14 et 15 ans, sont toujours en garde à vue. Ils auraient organisé un guet-apens via un site de rencontre. Reste à savoir si Philippe était la cible ou si le jeune homme était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana. Passez un excellent week-end. Elisabeth Lévy est avec nous. Joseph Massescaron, André Vallini, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Alain Bauer est resté avec nous, on a quand même changé de monde. Hein. On parle maintenant de charia à l'école. Hein.
Bah, vous allez finir par être centriste, en fait.
Mainstream.
Non, mais... Le recalage général fait que quand on dénonce les choses, on est menacé, insulté, expulsé, etc. Puis peu à peu, les faits gagnent toujours. C'est plus ou moins lent, c'est plus ou moins long. Et à un moment, on donne des mots sur les choses, les faits confirment les choses et les mots deviennent justes.
L'escalade permanente. Et je voulais commencer cette émission comme cela, parce que ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier sort de tout ce que nous entendons depuis 40 ans, 50 ans peut-être depuis plus longtemps que ça, peut-être depuis un siècle, en matière politique. Hier, M. Mélenchon a comparé le président de l'Université de Lille à Adolf Eichmann. Parce que je rappelle que le président de l'Université de Lille a interdit la conférence que devait tenir la France insoumise. Qui est Adolf Eichmann ? C'est le responsable de la solution finale, qui d'ailleurs est exécutée.
Il a planifié la conférence de Wannsee.
Exactement, qui a été exécutée en 62,
repris par un procès en
exactement. Israël. Adolf Eichmann. Donc l'escalade permanente, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon.
Nous connaissons les bassesses qui ont conduit la police française à faire la rafle du Veldiv sur les ordres des capitulars de l'époque qui étaient déjà couchés comme des chiens gémissants après avoir capitulé sans condition devant l'envahisseur nazi. Nous connaissons l'histoire de notre pays et c'est parce que nous la connaissons que nous nous méfions pas seulement des fascistes, mais plus encore peut-être des lâches. Des faibles, ceux qui, dans la chaîne interminable du mal, signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. « Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. » Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté.
Comparer le président de l'université, faire un rapport entre Eichmann qui disait « je n'y suis pour rien » et ce président qui a refusé une conférence de la France insoumise, c'est l'escalade permanente.
Non mais c'est même, d'abord c'est même pas le président, c'est le préfet, mais ce qui m'inquiète plus...
Non, c'est le président dans un premier temps.
Oui, oui, mais ce qui m'inquiète plus en fait, parce que ma première réaction c'est de me dire « tant mieux, les outrances de Mélenchon vont finir vraiment par le montrer comme une sorte de... » Bon, je ne veux pas employer de mots qui dépasserait ma pensée, mais ce qui m'inquiète, c'est est-ce que les gens autour croient à ce baratin ? Est-ce que autour, j'ai regardé les visages, est-ce qu'il y a des militants, est-ce qu'il y a des gens dans nos banlieues, est-ce qu'il y a des qui pensent que tout ça est vrai, si vous voulez, que ces pauvres gens sont victimes de, je ne sais trop
quoi. Je crois que oui. Hélas, oui. Je crois que oui. Je crois que sa secte, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ceux qui l'entourent là. J'ai regardé moi aussi les visages de celles et ceux qui l'entourent.
Ils sont terrorisés.
Certains sont admiratifs.
Hein. Ils sont terrorisés.
Non, il y en a certains qui hochent la tête en approuvant.
Ils sont terrorisés.
André a raison.
Ils sont terrorisés. Mais ça pose aussi Olivier Faure du PS.
Mais la NUPES, c'est fini, Pascal.
Oui,
la NUPES, c'est fini.
Oui, mais André Vallini.
Même à l'Assemblée, l'interdit le fond.
André Vallini, ça ne sera pas fini quand il va falloir retrouver son siège, je vous le dis.
Ah, ça, les sortants, oui.
Parce que monsieur Faure, il n'a pas de siège s'il n'est pas avec la NUPES. Monsieur Vallaud, il n'a pas de siège s'il n'est pas avec la NUPES. Monsieur Guedj, il n'a pas de siège. Il retourne d'où ils viennent. S'ils ne sont pas avec Jean-Luc Mélenchon, qui est la force de gauche la plus importante.
Alors Jean-Luc, j'ai subi la foudre mélenchonienne depuis
plusieurs
heures là.
Et donc vous verrez qu'ils sont prêts à tout, comme Olivier Faure était prêt à tout, à vendre son âme pour un plat de lentilles, et vous verrez qu'ils pactiseront avec lui, parce qu'autrement ils ne sont plus rien.
Le problème c'est pas qu'elle ait cessé d'exister, c'est qu'elle ait existé. Bon,
exactement. Deuxième passage de Jean-Luc Mélenchon, qui a mis une cible sur notre chaîne CNews, en appelant CNews en traitant ces news de chaînes infâmes.
Et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement.
Je rappelle que Emmanuel Bompard vient régulièrement sur CNews, qu'il est interrogé par Sonia Mabrouk.
Aubry aussi.
Et que Manon Aubry, je l'ai reçu plusieurs fois. Il ne me semble pas qu'on a eu un
d'ailleurs un échange plutôt courtois et plutôt républicain en lui posant toutes les questions
possibles. Il demande notre interdiction.
Hein, oui, mais qu'il demande l'interdiction, c'est encore autre chose. Mais qu'il, dans le contexte si particulier, qu'il mette une cible sur des gens qui peuvent être effectivement manipulables en traitant la chaîne d'infâme, pose un problème de sécurité, bien évidemment.
Il n'y a pas son bras armé, surtout
bien évidemment.
Rapporteur de la commission d'enquête.
Mais surtout, c'était une conférence pour, justement, un rassemblement pour
Gauthier Lebret.
Militer contre la censure, contre sa censure à lui, à la fois à l'Université de Lille et dans la salle privée ensuite où il devait
Gauthier
faire
Lebret.
Sa conférence.
Et Mathilde Panot était ce matin sur, chez nos confrères de BFM. Je vous propose de l'écouter.
Je crois que nous avons un grave problème démocratique qui a été à de nombreuses reprises condamné par des instances internationales. Rendez-vous compte qu'hier, en une journée, pour la deuxième fois, la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été annulée.
Rima Hassan, vous avez... candidate aux européennes sur la liste
de Manon Aubry. Ensuite, vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord qui a été condamné à un an de prison avec sursis pour un tract en soutien à la Palestine. Oui. Puis, vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, un référé en cours, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Je le dis sur la conférence, dans quelle démocratie, en plein une campagne électorale, des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion
avec la campagne électorale
et d'expression. Bien sûr. Dans quelle démocratie ça existe ?
Et parallèlement à Sarima Hassan a porté plainte contre notre confrère Johan Ouzaï, le septième sur la liste LFI aux élections européennes, a annoncé porter plainte. Elle a tweeté « Bonjour Johan Ouzaï, suite à vos déclarations que vous avez tenues sur CNews, Rima Hassan a la haine des juifs chevillée au corps depuis sa naissance, je vous annonce déposer plainte contre vous. À très bientôt, je vous souhaite d'être prêt ». On sent dans ses paroles une forme de menace, en tout cas je l'interprète comme ça. Johan était avec nous hier soir, Johan qui est un journaliste remarquable, qui a pris le temps pour expliquer sa position et développer ses arguments.
Je suis très surpris du dépôt de cette plainte parce que, voyez-vous, je ne prends aucun plaisir à affirmer que Rima Hassan a la haine des juifs chevillée au corps. Si je me suis permis de le dire, c'est parce que, hélas, je pense bien pouvoir en apporter la preuve. Je pense bien en avoir la preuve. Mes propos, ils sont étayés. C'est d'ailleurs mon rôle de journaliste, de parler en connaissance de cause et de s'appuyer sur des faits. Alors sur quels faits précisément est-ce que je me suis basé pour affirmer que Rima Hassan avait la haine des juifs chevillée au corps ? Il y a de multiples exemples. J'en ai pris quelques-uns. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?» Elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc le pogrom du 7 octobre dernier. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on ? Je pose la question. Je lui pose la question. Quand on lui demande si Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Non, c'est faux. Non, Israël n'a pas le droit de se défendre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme aussi d'antisémitisme ? Quand elle utilise l'expression, ou plutôt le slogan « From the river to the sea », qui signifie la Palestine de la rivière à la mer, ce qui veut dire en fait « raser l'État d'Israël », ce qui veut dire « détruire l'État hébreu » et par extension le peuple juif. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'antisémitisme ? Je pose à nouveau la question. Plus récemment, on a vu l'exemple d'affiches notamment pour la conférence qui devait se tenir à Lille. Sur cette affiche, il y a la photo, le nom de Rima Hassan. Et à côté de cette photo, sur cette affiche, le slogan, le logo de Free Palestine, où là aussi, Israël est rayé de la carte. On est à nouveau dans la négation de l'État d'Israël, dans la négation du peuple juif. On n'est pas là dans l'antisémitisme. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais pouvoir affirmer que Rima Hassan n'est pas antisémite. Je pense pouvoir prouver le contraire. Rima Hassan m'a interpellé. Elle me dit « Je vous souhaite d'être prêt, je ne vous épargnerai pas ». Comme souvent dans l'extrême gauche, on est dans la menace. Ça ne m'intimide pas beaucoup. Je suis journaliste, je ne suis pas un opposant politique, donc j'irai répondre devant le tribunal si la procédure va jusque-là, avec des arguments journalistiques pour démontrer qu'effectivement, selon moi, Rima Hassan a la haine des Juifs.
Anna Bouwer, est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question délicate ?
La question peut être délicate, la réponse, on verra.
Vous avez été grand maître du Grand Orient.
Oui.
Jean-Luc Mélenchon était un frère.
Oui.
Il appartenait au Grand Orient.
Il l'a reconnu à un moment ou à un autre, donc il l'a assumé publiquement.
Est-ce que vous trouvez que ce qu'il dit aujourd'hui était ce qu'on disait dans les loges du Grand Orient ?
D'abord, rien de ce qui s'est dit publiquement n'aurait pu avoir lieu, même pendant 12 secondes, dans une loge du Grand Orient. Ça fait partie de l'interdit absolu. D'abord, le débat politicien n'y est pas toléré. L'exagération, la menace, l'insulte...
n'y est pas toléré non plus. En général, on prend la porte et pas seulement pour la séance où on est venu. Donc la réponse n'est pas plus hier qu'aujourd'hui et j'espère que demain.
Quand il était au Grand Orient, vous aviez des contacts avec lui ?
Ah, j'ai rencontré une ou deux fois, oui, absolument. Parce que
comment vous analysez
son... C'est le rôle du président de l'association Pro Tempore, puisqu'on est en CDD, chez nous, de voir toute une série...
Comment vous analysez... D'abord, il n'est plus au Grand Orient aujourd'hui, il a été...
À ma connaissance, il est parti, oui.
Il est parti ou il a été exclu ?
Non, il est parti.
Comment vous analysez son parcours ?
Vous voulez dire au Grand Orient
Non, cette dérive, c'est-à-dire de quelqu'un qui est sur...
Vous pensez qu'il y a une dérive. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu Jean-Luc Mélenchon avant le PS.
Quand il était lambertiste.
Quand il était trotskiste.
Lambertiste.
Oui, lambertiste.
C'est-à-dire pas les plus...
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Les plus créatifs sont souvent ceux de la Ligue.
Oui, j'ai dit pas les plus. C'est ce que je voulais dire, pas les plus.
Oui. Et donc, il y a chez Jean-Luc Mélenchon une tactique dans laquelle tout le monde tombe plus ou moins. C'est-à-dire la provocation qui amène une forme de visibilité qui lui permet de rassembler aux marges, parce que c'est toujours sur les marges qu'on construit les mouvements les plus militants. Puis à un moment. Il faut se centriser parce qu'il faut devenir député, sénateur, ministre et devenir fréquentable. Et tout d'un coup, on a la version 2 de Jean-Luc Mélenchon qui est serein, raisonnable, sénateur tout à fait respecté à l'intérieur de
Mais son... Mais ça, c'était avant.
Mais non, vous pensez qu'il y a des phases. Tout ça se vit en même temps.
Il va redevenir raisonnable.
Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que chez Jean-Luc Mélenchon, le processus est uniquement lié à l'événement et à une tactique qui est quel est le gain le plus important. Il a, depuis des années, théorisé, vous aurez l'occasion de me confirmer ou pas, la logique qui est je ne vais gagner que sur des populations paupérisées de banlieues issues de l'immigration qui ne va pas voter et ce sont les marges de progrès de sa gauche, pas la gauche.
Sauf que ça fait 7% aujourd'hui avec Manon Aubry.
Oui, mais ça a fait beaucoup plus et il est dans ce problème permanent. Voilà, exactement. Il est dans ce problème permanent qui est de dire j'ai failli être au deuxième tour et si j'avais été au deuxième tour, j'aurais été élu président car la configuration m'aurait permis de battre le candidat du centre ou de droite, ça dépendait. Ah oui, oui.
Ben, non, il n'y a plus qu'il pense. Dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron.
Pas que lui.
Vous pensez qu'il avait une chance face à Emmanuel Macron?
Lui, il le croit, c'est pas la question. La question d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qu'il a dans sa tête à lui, son logiciel à lui. Son logiciel, il aurait pu, et s'il a raté ça, c'est parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche de rassemblement. Bon, aux marges et sur les
donc
côtés.
Donc ce que vous me dites, c'est qu'il n'a pas changé par rapport au Jean-Luc Mélenchon que vous avez connu dans les années 70 ou 80.
Il est toujours dans cette même logique qui est comment arriver par tous les moyens possibles.
Il n'y a pas une dérive personnelle. Vous ne voyez pas là-dedans quelqu'un qui... Ça, la psychologie, ça explique parfois certaines choses. Vous ne voyez pas dans son caractère. Non.
Alors, je pense qu'il a une dégradation parce qu'il est enfermé dans « si j'avais été au deuxième tour, j'aurais été élu président ». Et ça lui a fait un mal... Bon. Profond sur la logique de jusqu'où
aller. Et vous pensez qu'il sera encore candidat la prochaine fois?
Ouais, sans aucun doute.
Maintenant, enfin, maintenant, Alain Bruyère a raison, les propos outranciers, sa manière de voir, il l'a toujours
fait.
Depuis que je suis de pièce. Et d'où la question posée par Elisabeth Lévy est importante. C'est-à-dire que ceux qui sont allés vers la NUP et qui ont soutenu la NUP savent cela. Le savent, donc ils ne le découvrent pas aujourd'hui.
Bon, Grande Sainte à présent, et Grande Sainte nous permet de parler de la violence, c'est pour ça que vous êtes là aussi, et vous êtes un des spécialistes de la violence, notamment chez les jeunes. On a le sentiment que ce qui se passe en France, on ne l'a jamais vu, ma génération ne l'a jamais vu. Des gosses de 14 ans, qui tabassent et laissent morts à coups de batte de baseball, visiblement comme pour rien, pour un portable ou pour un rendez-vous, jamais vu ça dans la France des années 70 ou 80. Je me trompe ou pas ?
Vous êtes trop jeune peut-être, mais malheureusement ça a existé. Et là, vous avez raison, c'est que si on veut réfléchir à ça, il faut penser sur des cycles longs. Par contre, sur des cycles courts, vous avez raison. Mais c'est parce que vous êtes trop jeune. Disons que dans la France des années 50 ou 60, des affrontements de ce genre, avec ce qu'on appelait à l'époque historiquement les Apaches, au couteau, Hein, vous allez voir Casque d'or, vous aimez beaucoup le cinéma classique. Ce n'est pas un film, c'est un docu-fiction des affrontements entre bandes au couteau. Et les affrontements entre bandes au couteau, les jeunes avaient 14, 15, 16 ans.
Alors, on va voir.
18, 19. Par contre, nous avons domestiqué et civilisé les homicides avec un niveau le plus bas de l'histoire que nous avions eu en 2012-2013, 700. Nous sommes remontés à plus de 1000 et avec les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, nous sommes au plus haut niveau des 50 dernières années, 5000. Donc il y a eu un renversement accéléré et intense.
Oui, bien sûr. Il y a de savoir qui transgresse, bien qui sûr. Attaque au couteau, dans quel quartier.
Il y a des statistiques sur tout, il suffit d'aller les lire. La plupart de mes collègues sociolâtres, je ne parle pas des sociologues, c'est un beau métier, mais sociolâtrie qui est un culte, il y a des gourous partout, expliquent que ce n'est pas pire qu'avant, que c'est machin, etc. Tout ça n'est pas vrai. Il y a un retournement de tendance accéléré et intensifié, avec des gens plus jeunes, plus violents, plus souvent condamnés, qu'on ne le dit, mais très tardivement. En fait, la justice, elle n'est pas laxiste, elle est lente. Mais on ne peut pas dire qu'elle est laxiste. Les prisons dégorgent.
Mais là, on parle de passage à tabac, on ne parle pas de RICS.
Il n'y a aucune différence entre la RICS et le passage à tabac. C'est exactement la même chose.
Quand vous dites
pas définie.
Quand vous dites qu'elle n'est pas laxiste, la justice, hier, j'ai ouvert notre émission avec Schiltigem, vous l'avez peut-être policier. Vu, ce policier qui est percuté de plein fouet par une moto et par un jeune. Ce jeune n'est pas en prison à l'heure à laquelle je pense. Ça s'appelle du laxisme, à mes yeux.
Alors, c'est l'application stricte et trop stricte peut-être d'une législation. Et je rappelle que c'est le législateur qui fait la loi, pas le juge.
Mais il a 17 ans et demi, donc quelqu'un qui
fonce,
que tout le monde a vu.
Il n'en a pas 18, par
exemple. Il a 17 ans et demi.
Oui.
Mais le juge aurait pu l'incarcérer.
Le juge aurait pu l'incarcérer.
Mais le juge ne l'a pas interpellé. Justice qui est laxiste, c'est ce juge qui a pris cette décision qui l'est, à mon sens.
Oui, mais il aurait pu, mais ce n'est pas une obligation, c'est ce que j'explique. Oui. Malheureusement, les textes ont été ainsi écrits qu'ils sont extraordinairement défenseurs pour des raisons historiques des enfants et des mineurs, et qu'ils sont plus défenseurs d'ailleurs des enfants maltraités que des enfants violents, parce qu'ils considèrent que les enfants violents sont d'abord des enfants maltraités, et donc on s'est construit une sorte de doctrine de la non-punition, qui est une erreur. Mais en plus, quand la punition arrive, elle est extraordinairement lente et retardée, parce qu'on se donne toute une série de postures alternatives. Qu'il y a un problème de ce point de vue-là. Mais je rappelle que le législateur fait la loi.
Avant d'écouter Sandra Buisson sur ce qui s'est passé à Grande-Synthe, simplement un mot. Vous dites qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait une violence. Est-ce que ce qui a changé dans cette violence, c'est qu'aujourd'hui, elle me paraît gratuite, alors qu'avant, non. Est-ce que je me trompe ou pas?
Alors, il n'y a jamais eu de violence gratuite, il y a toujours une raison. Nous ne la comprenons pas toujours, mais il y a toujours une raison. La violence gratuite, elle n'existe pas. C'est un non-sens. La violence, elle est née d'un sentiment. Dans ce cas-là, ils se sont proclamés adjoints du shérif. Dans d'autres cas, ils défendent l'honneur supposé. Dans d'autres cas, ils disent tu ne portais pas le voile. Et donc, voilà.
Les motifs ont changé.
Les motifs ont changé, mais il y a des motifs. C'est ça que je veux expliquer. La violence.
Les barbares, c'est de la violence gratuite.
Totalement. Ah non.
Non, c'est pas les barbares, c'est pas la violence gratuite.
Pour piller, pour...
Non, il y a toujours une raison.
D'accord, ben c'est pour ça que je vous pose des
questions. Oui, mais je vous réponds.
Et c'est pour ça que vous êtes un spécialiste et que je ne suis qu'un béotien.
On va dire ça comme ça.
Bah oui. Non. En revanche, je voudrais qu'on écoute Sandra Buisson sur les derniers développements de Grande-Synthe qui permettent de mettre en perspective ce qui s'est passé.
Au cours des gardes à vue de ces deux jeunes mineurs, ils ont expliqué qu'ils ont créé un profil de jeune fille sur une application de rencontre, qu'ils ont donné un rendez-vous à un homme sur cette application pour, disent-ils, le punir. Le terme employé. Le punir de quoi? Nous n'avons pas encore cette information, mais ça pourrait expliquer pourquoi. Quand il a été retrouvé à terre, alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais on va rentrer dans un certain nombre de détails, il avait le pantalon baissé sur les chevilles, ce qu'on ne comprenait pas jusqu'à ce qu'on sache la justification évoquée par ces mineurs en garde à vue. Les policiers doivent déterminer si c'est bien à Philippe qu'ils ont donné rendez-vous ou si c'est à une autre personne parce qu'ils se sont trompés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où il a été agressé, il était avec un ami au téléphone. Et cet ami a entendu les instants avant l'agression. Et il a entendu les agresseurs lui demander s'il était sur un site de rencontre. Ce à quoi l'ami a entendu Philippe répondre « Non, je suis avec un ami au téléphone ». Autre point important, il y a eu d'autres agressions dans les période précédente et les enquêteurs cherchent à savoir si les deux jeunes en garde à vue peuvent y avoir participé, notamment l'agression d'un homme de 39 ans qui a été passé à tabac deux jours avant l'agression de Philippe. Dernier point, selon nos informations, le jeune des deux qui est suspecté d'avoir été le plus violent pendant cette agression est le mineur de 14 ans. Et une source proche du dossier nous indiquait que ces deux jeunes sont décrits comme issus de milieux familiaux très compliqués.
14 ans, et on en parlera tout à l'heure avec Éric Dupond-Moretti qui a été ferme, dit Marine Lançon ce matin chez nos voisins d'RTL. Mais nous sommes avec Jean-Pierre Foucault pour la dérolle.
Oh, studio, une petite écharpe, ça fait du bien. Il faut protéger son fonds de commerce, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a, Pascal ?
C'était magnifique, Jean-Pierre. Hier soir, c'était absolument magnifique. Il y a un supplément d'âme dans ce stade du Vélodrome. Toute la deuxième mi-temps, on sent que Marseille va gagner, on sent que Marseille va marquer. Et on est sur nos canapés, on se lève lorsque le but est marqué. C'était formidable, vraiment formidable.
Je ne regrette pas, franchement, Pascal, les propos que je viens d'entendre ce matin. Merci, bon. Pascal Pro, à tout à l'heure.
Oui, mais attendez un petit mot quand même, parce que c'est la dernière fois que vous êtes avec nous. Toute la semaine, vous étiez effectivement sur Europe 1. Mais là, vous avez un invité, je crois, un jeune journaliste qui veut commencer.
Michel Drucker. Oui, Michel Drucker.
Il est là, Michel Drucker.
Et on recevra également Emmanuel Moire, qui nous présentera son nouveau single. À tout de suite, donc, sur Europe 1.
Bon. Eh bien, tout de suite, effectivement. Nous, on marque une pause. On écoutera Éric Dupond-Moretti, je l'ai dit. On reviendra sur le discours de Gabriel Attal, bien évidemment. Et puis, comme vous le savez, c'est vendredi. Donc, le vendredi, nous serons dans la dernière partie avec notre ami Jacques Vendroux. Vous restez encore quelques secondes avec nous ?
Comme vous voulez.
Merci. À tout de suite. À la Bidi à 9h31. Bonjour, Somaïa, le rappel des titres.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Riposte israélienne contre Téhéran. De fortes explosions ont été entendues dans le centre du pays et plusieurs drones auraient été abattus par la défense aérienne iranienne. Les sites nucléaires n'ont subi, je cite, aucun dégât, précise l'AIEA, agence internationale de l'énergie atomique. De son côté, Israël refuse de commenter ces informations pour le moment. Conséquence directe de cette riposte, les cours du pétrole sont déjà repartis à la hausse. Le baril de Brent a pris plus de 3% dans les échanges matinaux sur les marchés asiatiques. Des cours qui risquent très vite de se répercuter sur les prix à la pompe. Et puis Washington met son veto à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Une décision aussitôt fustigée par l'autorité palestinienne et voyant, je cite, une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre.
Beaucoup à Somaïa. Éric Dupond-Moretti, je le disais, était sur RTL tout à l'heure. Il a parlé manifestement sans ambages, cette fois, de la violence des jeunes.
Ça ne signifie pas qu'on oublie qu'un gamin est un gamin. Ça ne signifie pas qu'on oublie que certains sont privilégiés par rapport à d'autres. Ça ne signifie pas que l'on oublie des différences sociologiques que l'on retrouve dans une traduction judiciaire, enfin, le gamin qui a été en général aimé, qui vient d'un milieu culturel favorisé, il a moins de risques d'être délinquant qu'un autre. Ça ne signifie pas cela dans la bouche du Premier ministre, mais ça signifie en revanche qu'il faut regarder les choses avec lucidité, que la délinquance des mineurs a évolué, qu'elle est plus violente qu'autrefois, qu'il y a à ça un certain nombre de facteurs auxquels nous n'avions pas été confrontés. Les réseaux sociaux peuvent expliquer un certain nombre de choses. Le malaise psychologique, psychiatrique des adolescents, qui est un vrai problème. Donc, il y a un certain nombre de facteurs nouveaux qui nous conduisent vers une délinquance nouvelle et on ne peut pas rester les bras ballants. Voilà.
Et le facteur nouveau qui n'est jamais cité...
Bah oui.
Jamais.
Le seul qui est peut-être déterminant. Et c'est ça, en fait, le décalage. Les gens qui nous écoutent, ils entendent M. Dupond-Moretti, mais ils disent « Mais enfin, il vit où ?» Ce n'est pas les réseaux sociaux, le facteur déterminant. Ce qu'on a vu depuis les 4 ou 5 agressions, c'est ce que vous appelez hier la milice des mœurs. Oui. Quel est le point commun entre Samara, entre Shemsidine et entre...
Il va prendre une décision, Éric Dupond-Moretti, sur instruction du Premier ministre, ça a été annoncé hier, il va prendre une circulaire pour faire en sorte qu'un tueur, un agresseur, qui tue ou qui agresse pour des préceptes religieux ait une circonstance aggravante. Gabriel Attal a annoncé hier, chez nos confrères de BFM, que ça devait devenir une circonstance aggravante.
Mais pourquoi il ne le dit pas ? Pourquoi il ne dit pas ? Et pourquoi, lorsqu'il dit la violence...
C'est déjà le cas dans le code pénal.
Oui. Mais pourquoi ne dit-il pas la violence des jeunes a changé parce qu'elle est motivée aujourd'hui pour des raisons religieuses ? Pourquoi ne dit-il pas cette phrase aussi aussi simple dans sa bouche. Eh bien, vous le savez pourquoi. Parce qu'il ne veut pas le dire.
La position du Premier ministre, c'est de parler de charia. C'est totalement inédit qu'un Premier ministre parle de charia qui s'applique notamment à l'école. Lévy.
C'est ça qui est sidérant. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que les gens décrochent.
Mais évidemment.
Ils parlent des écrans et des réseaux sociaux et des différences culturelles.
Et des comptes fichants.
Tout ce qu'il dit, d'ailleurs, n'est pas faux.
Mais évidemment, la dimension nouvelle, comme vous l'avez dit, si vous voulez, parce que les réseaux sociaux, c'est pas très nouveau. Alors maintenant, c'est les comptes fichants. C'est, franchement, c'est un peu comme si on nous avait dit après l'attentat de Nice que le problème en France, c'était les camions. Si vous voulez, on est quand même, c'est un peu les instruments, si vous voulez, qu'on pointe. Mais en fait, notre problème, c'est qu'on a toujours un retard dans la prise de conscience. Parce que vous avez raison, là, des mots qui ne sont pas prononcés d'habitude ont été prononcés. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est une micro-minorité, que tous les jeunes, etc. Or, ce qu'on constate, et c'est ça le fait nouveau, c'est que dans certains établissements, dans certains territoires, ça n'est plus une minorité, c'est une majorité qui a réussi à imposer sa norme.
Écoutons M. Attal sur l'entrisme à l'école, et effectivement le mot charia a été...
Inédit pour un Premier ministre, il parle comme Éric Zemmour.
Effectivement, mais...
Excusez-moi, il parle comme Éric Zemmour à Bruxelles.
Éric Zemmour, il faut le rappeler, est sans doute le premier qui a alerté sur les plateaux de télévision, de ce qui était en train de se passer en France. Et souvenez-vous comment son analyse a été perçue dans la sphère médiatique. Il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand il a écrit Le Suicide français, quand il a écrit ces livres-là, il a fait une analyse de la société française en disant « Attention, ça va être de pire en pire sur ce sujet-là ». Et il faut lui reconnaître cette qualité d'analyse. Parce que ce qu'il a dit hier, on y est aujourd'hui. Et personne ne peut le contester. Donc écoutons ce qu'a dit M. Attal sur l'entrisme à l'école.
Dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles. Vous avez en face de vous, Madame de Malherbe, le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a pris une décision importante, interdire le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, qui étaient utilisés pour détourner la laïcité, avec des groupes organisés qui appelaient des jeunes filles à porter une abaya à défaut de pouvoir porter un voile pour manifester ostensiblement leur religion et couvrir leur corps dans l'école de la République. J'ai pris la décision de l'interdire. Sur ce sujet-là, je peux vous dire que ma détermination, elle est absolue.
Georges Fedec.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit aussi Éric Dupond-Moretti. Moi je ne vois rien véritablement de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. On a réformé le code pénal des mineurs en 2021, ça n'a rien changé, au contraire, ça l'a aggravé. On entend dire, on va supprimer ou réfléchir à l'excuse de minorité. J'entendais ce matin sur une radio la présidente de l'association des tribunaux pour enfants qui a dit surtout pas, on ne touche pas à l'excuse de minorité. Quoi qu'ils disent, on veut instaurer la responsabilité des parents, ça existe déjà. On veut instaurer les internats, ça existe déjà.
Ce qui est nouveau, c'est le mot charia.
Le dernier qui a le dernier mot, c'est le juge, il fera ce qu'il voudra.
Tout ça ne sert évidemment à rien. Tous les gens qui nous écoutent savent que l'excuse de minorité, tout ça est bidon.
C'est jamais exclu, par exemple.
Alors, ou tu prends des solutions radicales, et moi je peux vous en donner quelques-unes, des solutions radicales. Ça, je peux vous en donner quelques-unes. Service militaire. Service militaire obligatoire.
Mais il y a des voix qui le réclament.
Et tu les prends tous à 18 ans.
Oui.
Boum.
Oui.
Tous.
Je crois pas.
Et service militaire à l'ancienne.
Oui.
À l'ancienne.
Ou alors pour les délinquants récidivistes les plus durs.
Alain Bauer.
Les confier à l'autorité militaire.
À l'ancienne. Non, ça, c'est... Mais évidemment, non, mais ça, c'est radical. C'est-à-dire que tu les prends, tu prends toute, toute une génération et tu les formes. Ah bah oui, alors donc...
Mais tout ce qui faisait le service public au sein de
Alors abandonnons tout. Ça sera plus rapide.
Mais il faut simplement se rendre compte que depuis 1976, de manière délibérée et déstructurée, au nom de la globalisation heureuse et des bisounours gambadant dans la luzerne, nous avons détruit ce qui existait en France, qui s'appelle l'État. Donc on peut tous se plaindre, faire des incantations, des imprécations et des amortations, mais les mêmes qui vous racontent ça aujourd'hui sont ceux qui l'ont détruit depuis 50 ans avec
Monsieur Valigny qui dit pas un mot depuis 9 heures. Monsieur Valigny,
détermination. Le service public scolaire, le service public de la santé, le service public de l'armée et parfois même le service public de la sécurité, les moyens des services relevant du ministère de la Justice sont déplorables, effondrés, et je ne parle même pas de l'état de nos prisons.
Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Je ne parle même pas de l'état de nos prisons, puisque voilà.
Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Mais tu fais l'inverse. C'est un choix.
Mais je suis d'accord. Mais quoi, ça veut dire quoi l'inverse
par l'opération du
Saint-Esprit ? Mais ça veut dire quoi l'inverse ? Si vous êtes, ça veut dire quoi l'inverse ?
L'inverse, tu as construit un État et tu reviens aux normes qui sont celles de l'État. Par exemple, quand tu choisis l'intégration ou l'assimilation, c'est pas la même chose que le multiculturalisme.
Mais oui, mais on a voté pour les multicultis.
Mais oui, mais ça fait 40 ans que tu dis aux gens.
On a voté pour eux.
Ça fait qui vote pour qui ?
Ça fait 40 ans que tu dis aux gens venez comme vous êtes.
Ça se convainc.
Bon, Monsieur Vadini qui est effondré. Vous avez au moins 3 minutes pour parler.
Oui,
parce que vous n'avez rien dit depuis 9 heures.
Si, je sais
que vous êtes.
Non. Au tout début, j'ai stigmatisé Mélenchon et sa secte.
Oui.
Et j'ai été très sévère à l'égard de la France insoumise, de la NUPES. Alors aujourd'hui, maintenant, sur ce qui vient d'être dit, le service militaire, c'est une fausse bonne solution, Pascal. Parce que d'abord, les militaires n'en veulent pas. Ça coûte très cher, c'est inefficace et ça ne correspond pas aux besoins d'une armée moderne capable de se projeter et de faire face à un conflit de haute intensité. Donc le service militaire, il faut oublier cette fausse bonne solution. Moi, je l'ai fait. C'est vrai que ça permettait, pendant un an au moins, seulement un an, d'intégrer des gens de conditions différentes. Mais je pense qu'il faut oublier cette idée. En revanche, ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'Anna Boer en pense, c'est multiplier les centres éducatifs fermés et les centres éducatifs renforcés.
Oui, et les jeunes en équipe de travail.
Oui.
Qui était justement un des éléments.
Et les EPID.
D'anciens militaires.
Et les EPID. J'ai créé un EPID.
C'est quoi les EPID ?
Établissement public d'insertion par l'emploi.
Mais qui était fait par un encadrement
militaire. Géré par l'armée.
Voilà,
on en a créé un à Autran, sur le Vercors, en Isère. Ça marche très bien. Donc il y a beaucoup de structures qui ne sont pas assez nombreuses, qui ne sont pas assez développées, qui permettent justement de remettre dans le droit chemin la plupart des jeunes délinquants lorsqu'ils sont confiés dans ces...
Écoutez, 18 ans, c'est trop tard.
De le faire vite.
Solution radicale, 18 ans, c'est trop tard. Dès qu'un gosse, 11, 12 ans, fait une connerie, il va avec les militaires qui le remettent d'aplomb. Ça vous va ?
Mais les militaires n'en veulent pas. Ils ont autre chose à faire, les militaires. Ils sont là pour défendre la France.
Vous ne pouvez pas faire une deuxième armée pour s'occuper des jeunes.
Mais Pascal, il y a peut-être
une
solution.
Centre de redressement, si vous voulez. Centre de redressement sous l'autorité de l'armée. Ça vous va ?
Je vous signale qu'Éric Pomoretti l'a suggéré, ça.
Centre de redressement sous l'autorité de l'armée. Ça vous va ?
Il y a des pour enfants, mais heureusement, ça
sous l'autorité d'éducateurs spécialisés, de professionnels, pas de l'armée. Les militaires, ils sont là pour faire la guerre et défendre le pays.
Les États-Unis,
donner notre idée. Moi, je pense, si vous voulez, que pour il faut marquer de façon extrêmement claire qu'en France, on n'enquiquine pas sa sœur. D'accord ? On n'enquiquine pas, on les oblige pas à s'habiller comme ci ou comme ça. Donc, pour ceux, moi, je pense qu'il faut ressortir pour les étrangers les expulsions, y compris si ça paraît des délits mineurs, pour dire comment.
Ils sont français.
Non, j'ai dit pour les étrangers, j'ai dit. Il y a des étrangers aussi.
Gabriel Attal, j'entends bien.
Et pour les doubles nationaux, non mais moi, c'est la seule chose qui...
Gabriel Attal, poursuivons hier, puisque nous avons la responsabilité des parents. Il en a parlé, on peut revenir sur son discours du matin. J'ai l'impression qu'entre le matin et le soir, ce n'était pas le même.
Bah oui, c'est
pour... un complément.
C'est-à-dire ?
Il a découpé en deux morceaux, il avait deux rendez-vous médiatiques, un pour le matin, un pour le soir.
Écoutons,
il y a un lien entre les deux. Hein.
Oui, mais... Oui.
Bah,
c'est un peu, comme Georges Fenech, il y en a deux. Non. Donc on sait jamais.
Il dit le contraire le matin. Georges Fenech, il dit le contraire la veille.
Non, il dit pas. Genre, défendez-vous. Défendez-vous, genre. Non, moi j'ai trouvé que le matin, Gabriel Attal ne dit pas les choses. Il est vague.
Oui.
Il dit voilà les jeunes, la minorité. Voilà. Bon. Alors l'autorité, en fait, il enfonce des portes ouvertes. Le diagnostic est bon. Mais il n'est pas précisément nommé. Écoutons ce qu'il dit, par exemple, sur l'autorité et sur la culture de l'excuse.
L'autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes. Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire, vers une forme de violence déchaînée, morbide, sans règles. Je dis bien une partie de nos adolescents, et une partie seulement. Car c'est bien une minorité d'adolescents que les Français ne comprennent plus. Cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir dans le poste, rimée avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires, et parfois même déchaînement de violence.
Là, le reproche que je peux lui faire, c'est de ne pas nommer de qui il parle. De quelle minorité il parle ? De quel jeune il parle ?
Il l'a fait hier soir, pour le coup. Donc maintenant, c'est
mais je pense qu'il y a une cohérence entre l'annonce du matin et le fait qu'il avait un rendez-vous médiatique. Voilà. Enfin, on peut pas faire le reproche de l'incohérence.
Oui, il l'a fait là.
D'accord.
Charia, il l'a
fait.
Alors
très bien. Pas assez fort le matin.
Bon, et puis c'est vrai que on en a ras le bol des
répétitions.
On en a ras le bol des phrases creuses ou des mots valises, genre notre main ne tremblera pas.
Le pas de vague est terminé.
Et là, la culture de l'excuse, c'est fini. Bah, j'ai envie de dire non, puisque presque M. Dupond-Moretti commençait tout à l'heure cette, en expliquant, voilà, bien sûr, quand on sort de tel milieu, bien sûr, bon, on sait tout ça, mais dans la Creuse, qui est un des territoires les plus défavorisés de France, il n'y a pas de problème de sécurité.
Mais attendez, le Grenelle, me semble-t-il. La délinquance des mineurs.
Le Grenelle. Alors, écoutons M. Attal.
On y verra beaucoup plus clair.
Écoutons M. Attal et je donne la parole.
Et les cours d'empathie ne fonctionnent pas ?
Les cours d'empathie, bon. Écoutons M. Attal.
La culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Prendre le mal à la racine, s'attaquer au problème par tous les angles, par toutes les facettes, restaurer l'autorité à tous les niveaux, dans la famille, à l'école, dans les rues, faire évoluer les peines et les sanctions pour qu'aucun acte ne soit jamais laissé sans réponse.
Oui, je voudrais pointer une contradiction que j'ai relevée, mais je voudrais savoir ce qu'on pense Alain Boer et Georges Fenech, qui connaissent bien le sujet de la procédure pénale. Il y a 2 ans, Éric Dupond-Moretti a fait voter une loi qui sépare la reconnaissance de culpabilité de la faute, de la punition
avec
qu'on inflige.
Avec un délai obligatoire.
La césure. Il y a une césure entre la reconnaissance de la culpabilité et la sanction qui est infligée. Et hier, le Premier ministre a dit comparution immédiate le plus souvent possible. Plus de délai entre la culpabilité et la sanction. Donc il y a une vraie contradiction là. Mais il va falloir modifier la loi que Dupond-Moretti a fait voter.
Ça a été une erreur qui a été faite en 2021 sous prétexte de raccourcir les délais. On a créé une césure, ça veut dire que le mineur repart du tribunal pour enfants, il rentre chez lui et on le reconvoque dans un an pour savoir quelle peine on va lui prendre.
Et donc on va supprimer ça. Dupond-Moretti va faire le contraire de ce qu'il a fait il y a 2 ans.
Ben j'attends de voir.
Oui. Bah, d'autant que la réforme du code pénal des mineurs, il y a une première évaluation qui vient de sortir il y a quelques jours, montre à quel point ça s'est traduit par un effondrement du niveau de poursuite. Oui. On a l'impression que la situation s'est beaucoup améliorée quand on regarde la statistique, mais c'est exactement l'inverse. Les policiers se sont concentrés sur les sujets les plus évidents, les plus simples, etc. Et ont délaissé la petite et moyenne délinquance, la délinquance d'atmosphère,
celle comme qu'il faut tuer dans l'œuf,
celle qu'il faut tuer dans l'œuf, en intervenant très vite et très rapidement sur le modèle, par exemple, de ce que nos amis hollandais, qui ont réduit leur délinquance et vidé leur prison en intervenant très vite pour casser le processus d'entrée dans la délinquance.
Et est-ce que en Hollande, il y a une immigration aussi forte qu'en France ?
Oui, elle est très très puissante.
Donc,
mais c'est comme au Danemark. Mais les mesures de l'État hollandais, qui est paradoxalement très fédéralisé et très protestant, sont beaucoup plus fermes et rapides que le dispositif français, qui n'est pas laxiste, mais qui est très lent. Parce que justement, chaque fois qu'on a la possibilité d'intervenir vite, on délègue.
Ces pays ont rétabli les courtes peines d'emprisonnement que nous, on a supprimées en 2021.
Même avant. Et que Mme Belloubet voulait, qui était hier soir d'ailleurs, hier matin, à Viry-Châtillon. Donc c'est ce que j'ai dit. Allez avec Mme Belloubet pour défendre l'autorité de la cité, ça on me l'a fait pas.
Mauvais signe.
Je suis désolé de vous le dire.
Le débat et la discussion sur les responsabilités pénales des mineurs, c'est absolument essentiel. Je suis d'accord. Maintenant, il y a quand même un problème, j'en parlais hier soir, qui est un problème de fond. Un tsunami qui est aujourd'hui l'installation du, je ne dis pas de police des mœurs parce que je ne veux pas employer le mot police, mais de milice des mœurs aujourd'hui, maintenant en France. Cette milice des mœurs, personne ne veut la voir. Il se trouve qu'il y a un film aujourd'hui sur les écrans et j'engage vraiment vivement les gens qui nous écoutent à aller le voir, qui s'appelle Amal, un esprit libre.
Libération n'a pas aimé.
Et vous avez vu Libération ? Libération a titré ça, c'est formidable ce que vous
Libération dites. A fait ce titre. Dément que je lis parce que portrait caricatural et hypocrite de l'islamisme homophobe. Parce que bien sûr, il y a un portrait islamiste gay friendly. Ça existe.
C'est bien connu.
Évidemment, hein. Les personnes qui sont jetées du 5e étage, on le sait évidemment, c'est ça. Donc, et tout le papier de Libération est une exécution de ce film qui est superbement bien joué. J'invite toutes les personnes à aller le voir.
Vous répétez.
L'actrice est absolument remarquable.
Voilà. Répétez le nom de ce film, parce qu'effectivement...
Amal, un esprit libre.
Voilà,
de Jawad Kalim, et c'est un film remarquable. Allez le voir, parce que ça montre justement qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui.
Et il n'ira pas à Cannes, ce film.
Non, cette milice des mœurs, c'est un film belge. Hein.
Il peut aller à Cannes.
Il y a un film belge à Cannes.
Les frères d'Ardenne vont à Cannes.
Cette milice des mœurs.
Non, mais c'est très intéressant.
Cette milice
n'ira pas à Cannes.
Non, bien sûr.
C'est ça l'essentiel. Il n'ira pas à Cannes.
Il y a eu des films à Cannes. Il y a eu des films à Cannes sur l'islamisme. Il y a eu un film qui s'appelle Timbuktu à Cannes, qui me montrait la montée de l'islamisme. Il y a eu des films à Cannes sur l'islamisme.
C'est bon film.
Et alors,
Palme d'or, Timbuktu.
Non, Grand Prix.
Grand Prix.
Je termine juste en disant.
Oui, mais c'est l'islamisme loin. On peut le traiter. Mais l'islamisme en France, c'est plus compliqué.
Pas faux.
Ce film a été fabriqué pour être vendu à la horde, des passionnés de la laïcité.
Bon, quand je vous écoute, vous avez raison, hein, nous on est...
Libération.
C'est génial ça.
On essaie de témoigner de la réalité, mais on est en deçà de la réalité quand je vous écoute.
La guerre entre la laïcité et l'islam, c'est les foulards de Creil. 89. Ce qui restait de laïque,
bien sûr,
s'est effondré parce qu'à l'intérieur du camp laïque, laïque QUE, eh bien il y a eu les laïcs avec adjectif et les laïcs sans. La laïcité plurielle, la laïcité ouverte, la laïcité machin. Et oui. Ce jour-là, ce n'est pas l'adversaire qui a gagné. C'est le défenseur qui s'est effondré sur lui-même.
Et c'est Lionel Jospin.
Par sa division. Oh, bon, lui, il est arrivé après, entre guillemets. Il
89.
Il n'y était pour rien. Mais c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État a fait l'œuvre de la plus grande lâcheté de l'histoire en expliquant que la laïcité était une neutralité, qu'elle ne regardait ça que de loin, que surtout elle n'intervenait pas, et qu'elle était arrivée par l'opération du Saint-Esprit pour éclairer les gens et nous séparer des églises, et pas seulement de l'église, et de l'État. Et donc, cette réalité-là, c'est que le camp laïque, à force de penser que tout était évident, a oublié qui il était, ce qu'il était et comment ça marchait. Et pour ceux qui ne l'ont pas bien lu, la loi de séparation des églises et de l'État, je leur recommande, un, de la relire, et deux, d'aller chercher un chapitre qui s'appelle « Police des cultes ». Ce n'est pas une loi de séparation, c'est une loi de libre exercice des cultes, de droit de l'exercer, d'en changer ou d'en avoir aucun, sous le strict contrôle de l'État, pour des motifs d'ordre public. Et nous l'avons oublié.
Oui, mais
on va marquer une pause.
Un mot, pardon. Gabriel Attal hier dit la laïcité, attention, c'est pas une contrainte. C'est gentil, la laïcité, c'est une liberté. Bah non, c'est une contrainte.
Oui. Je vous remercie, Alain Bauer. Je vous remercie grandement. Vous êtes toujours membre du Grand Orient ?
Oui, adhérent de base.
Et vous allez toujours dans les loges ?
Bah oui.
Il se dit toujours des choses dans les loges ou il ne se dit rien ?
Si, si, il faut venir.
C'est mixte ?
Alors, le Grand Orient est devenu mixte, oui, bien sûr. Il y en a qui sont purement garçons, d'autres purement filles et des mixtes.
Mais le Grand Orient, effectivement, est mixte depuis combien de temps ?
Une petite quinzaine d'années. Il accueillait des sœurs, mais il ne les initiait pas. Maintenant, c'est...
Il y a combien de francs-maçons en France ?
En France, je dirais 200 000, peut-être.
Et leur pouvoir est important, selon vous ?
Bah, la preuve, d'influence. Chez vous, vous avez vu. Cette reconnaissance est
remarquable. Excellente réponse.
C'est un plaisir, toujours, que vous soyez avec nous. Et merci de votre expertise, bien évidemment. On va recevoir Rachel Kahn dans une seconde. Encore debout, La République à l'épreuve des mots, par l'auteur de Racé. C'est aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite. Vous la connaissez, elle vient régulièrement nous voir, notamment chez Laurence Ferrari. Rachel Kahn, bonjour.
Bonjour, cher Pascal.
Encore debout. Merci d'être avec nous. La République est debout, malgré tout, malgré Ilan Halimi, Sarah Halimi et tant d'autres tués parce que juifs. Debout, malgré les attentats terroristes, islamistes de l'école de Toulouse, Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Bataclan, Nice, etc. C'est vrai qu'on peut voir en ce moment les choses de manière parfois différente. Et Emmanuel Macron le dit, et il n'a pas tout à fait tort sur ce point, lorsqu'il dit « la France tient bien » lorsqu'on voit parfois ce qui se passe notamment en Angleterre et ce qui se passe aujourd'hui à New York. C'est aussi un regard qu'on peut porter sur la France et la République qui tient debout.
Oui, mais c'est presque un miracle. En fait, et ce miracle, je crois qu'il est dû à nos principes fondamentaux et républicains, à notre devise. Mais simplement, le mot que je porte, c'est encore debout et finalement en suspens jusqu'à quand ? Parce que si on est protégé par l'humanisme, l'universalisme, on l'a vu après le 7 octobre, on a été très attaqué par une mouvance, mais qui au fond ne représente qu'un tout petit pourcentage. La majorité des Français étaient avec ce qui s'était malheureusement passé en Israël, était avec les Juifs. On recevait beaucoup de messages. On avait quand même cette humanité-là qui ressortait. Donc on est encore debout, malgré tous les maux qui harcèlent la République.
Et qui parfois harcèlent vous-même personnellement, on en parlera tout à l'heure, puisque Rima Hassan, qui attaque CNews, qui attaque Yohann Ouzaï, vous attaque vous personnellement et vous a aussi ciblé. Somaïa Labidi, à 10h01, le rappel des titres.
La piste du guet-apens privilégié dans l'agression mortelle de Philippe à Grande-Synthe. Selon nos informations, les deux suspects se sont fait passer pour une jeune femme sur un site de rencontre et tendre un piège à la victime. Une marche blanche en hommage au jeune homme de 22 ans se tiendra dès 11h ce matin. On en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur de deux jeunes filles hier dans le Bas-Rhin. L'homme qui a donné une fausse identité aux policiers a fait 3 séjours en psychiatrie et était suivi jusqu'à une rupture de son traitement en novembre 2023. Et puis un peu de Lady Di à Hong Kong, des robes, des vestes et des accessoires de la princesse Diana exposés dans un centre commercial de la ville. Les pièces seront ensuite présentées en Irlande avant d'être mises aux enchères au mois de juin.
Merci Soumaya. On va évidemment parler du livre de Rachel Kahn. Simplement, nous n'avons pas écouté toutes les interventions que je voulais vous faire écouter ce matin, et notamment celle de Gérard Larcher. Ce qu'a dit hier Gérard Larcher sur CNews, chez Sonia Mabrouk, j'aurais aimé qu'il le dise il y a bien longtemps et que tous les Républicains le disent il y a bien longtemps, Monsieur Fedek. Mais mieux vaut tard que jamais.
Encore mieux qu'il le fasse.
Mieux vaut tard
que
jamais.
Que vous...
Mieux vaut tard que jamais.
Non, mais c'est parce vrai que son discours était très clair.
Mais parce qu'il a tout dit.
Très, très clair.
Et en fait, il est, comment dire, en résonance avec ce que 9 Français sur 10 pensent. Oui. Ce qu'il dit, c'est même pas de droite ou de gauche.
Il y a un réveil.
Oui, vous l'avez mis. Hein.
Mais ils ont été au pouvoir, parce que c'est bien de le dire, c'est quand même de le faire.
Réveil.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais bon.
Il vient d'un homme sage.
Non, mais la peur que j'ai avec les LR, c'est qu'ils se réveillent, mais ils se rendorment aussi vite. Parfois. C'est ça qui me fait un peu peur. Hein, parce que je vous connais.
Oui.
Après, je vous connais.
Après les européennes, ils pourraient ne pas se réveiller.
Voilà, je vous connais. Oui.
Ça, c'est vraiment.
Alors, écoutons, Gérard.
Un parti pris.
Non, mais écoutons, Gérard Larcher. Si les LR avaient été comme Gérard Larcher hier, croyez-moi, vous n'en seriez pas là. Écoutez.
Nous avons besoin d'actes. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes et des actes, notamment devant le Parlement, et des actes qui, j'allais dire, apportent une réponse à cette, pas simplement des civilisations, à cette perte de repères de notre société, qui naturellement est liée à la déstructuration des familles, mais aussi, il faut se dire les choses, à l'échec de la politique d'intégration. Et on voit bien dans les atteintes à la laïcité, et puis, pour partie, un cheminement lent d'une forme, j'allais dire, d'islamisme radical.
Moi, je voudrais qu'on pose des vraies questions parfois. Est-ce que la société multiculturelle peut vivre dans un pays ? Est-ce qu'une société multiculturelle... Ou est-ce que au nom du vivre ensemble, ceux qui arrivent doivent renoncer à une part de leur culture, ce qui était le vrai dans les années 30, 40, 50, c'était l'assimilation, et de faire le constat, une bonne fois pour toutes, la société multiculturelle, elle est en échec. Qu'en pensez-vous, Rachel Kahn ?
Oui, alors souvent on me dit que je viens d'une famille multiculturelle, ce que je récuse absolument. Ma mère est juive, mon père est animiste musulman, l'une c'est juive polonaise, l'autre c'est l'Afrique de l'Ouest, etc. Je ne vis pas dans une famille multiculturelle, je vis dans une famille française. Chez moi régnait une bibliothèque, et la bibliothèque, c'est l'origine de notre citoyenneté. On peut avoir justement les origines du monde, mais nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui se réunit autour de ce socle qui est notre devise. Liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Mais alors, est-ce que le politique doit dire la société multiculturelle, c'est une impasse ?
Mais oui, c'est une impasse.
Est-ce qu'elle de... Oui, mais personne ne le dit comme ça.
Alors, pardon.
Parce que justement, dans les années 80, c'est toutes les différences vont permettre de nous enrichir.
Oui.
Je veux dire, aimons-nous avec nos différences.
Oui, mais en gardant ce socle, bien sûr que la société française est nourri de ses origines du monde, mais en ayant un socle très solide, à mon sens, sur nos fondamentaux.
Non, mais je crois que vous avez posé, en fait, la question fondamentale. Est-ce qu'on s'intègre à une culture, qui existe. Vous savez, les Allemands ont un terme, je ne retrouve pas le terme allemand, mais je crois que Joseph est germaniste, c'est le terme de culture de référence, Leitkultur ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, parce que c'est quoi la société multiculturelle? Ce n'est pas une société où il y a des gens de plusieurs cultures, toutes les sociétés sont comme ça. La société multiculturelle, c'est une société où elles sont toutes placées à égalité. Je ne suis pas sûre qu'elle ne puisse pas marcher nulle part. Par exemple, est-ce qu'elle ne peut pas marcher aux États-Unis ou dans des pays comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'en France, elle ne nous va pas du tout bien autant. Pas du tout, du tout. En France, il faut, comme vous l'avez dit, il faut dire que ce n'est pas facile. Il faut arrêter de dire, mais arrêtez, il n'y a pas de contraintes, venez comme vous êtes. C'est ça la France McDo.
Je crois que, pardon, parce que j'ai donné l'impression de jouer sur les mots, mais les mots ont parfois de l'importance. C'est moins le mot multiculturel qui m'ennuie, parce que nous sommes tous porteurs, tous autour de cette table, nous sommes porteurs de sensibilité, de goût qui s'enracine dans d'autres cultures. Non, c'est pas multiculturel, c'est multiculturel. Cultuel, c'est-à-dire la religion, le culte. Nous ne pouvons pas être une nation multiculturelle. Nous pouvons peut-être être multiculturels, mais certainement pas multiculturels.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Non, là, je ne partage pas pour le coup votre avis, parce que je vais parler des Juifs et des Arméniens, qui sont incroyablement assimilés et intégrés à la société française, qui ont gardé une part de leur culture... Dans le privé, oui, dans l'intime, mais qui n'y a pas plus assimilé à la société française.
Pascal, ce qui est pour moi un cheval de bataille, c'est justement d'ailleurs des sénateurs LR qui ont déposé cette proposition, que les LR d'ailleurs, la direction n'a pas repris, c'est-à-dire le fait que soit inscrit dans la Constitution, le fait que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne.
À ce qu'a dit Joseph, on peut être une société, on doit l'être, une société culturelle, parce que les cultes sont libres, à la condition qu'il n'y ait aucun culte qui se prévaut au-dessus des lois de la République.
Vous savez bien qu'il y a une religion, d'accord, pour qui, justement, c'est un élément qui n'est pas un élément...
Alors, la question taboue par excellence, que Alain Juppé a posée chez Frédéric Aziza un jour, le fameux Frédéric Aziza, je ne sais pas si l'islam est compatible avec la République. C'est ce qu'avait dit Alain Juppé, ce n'est pas moi qui le dis. Une question taboue, je ne sais pas si elle est essentielle, mais elle est essentielle.
Une fois qu'on a posé la question, on fait quoi?
Faut répondre à cette question.
Et si la réponse...
faut y répondre. Mais... C'est-à-dire un certain islam, c'était Nicolas Sarkozy parlait d'un islam de France, il y avait absolument ce qu'il voulait développer. Mais c'est une question essentielle aujourd'hui.
Pascal, il y a une question corrélée à ce que vous posez, c'est est-ce que l'islam est aujourd'hui soluble, malheureusement, dans l'islamisme? C'est ça la question. Je suis désolé, c'est la question.
C'est ce qui est en train de se passer.
La République, elle accueille tous les cultes. Elle les protège tous, elle n'en reconnaît aucun, et ça a marché assez longtemps pour qu'on puisse dire que c'est assez solide comme modèle. Il y a des millions de musulmans qui sont intégrés, pas totalement assimilés peut-être, mais bien intégrés dans la société française. Et moi je pense que l'intégration, c'est une première phase, et qu'ensuite, si les choses se passent bien, au bout de une, deux ou trois générations, vient l'assimilation. Il faut que les conditions sociales, que les conditions économiques, que tout ça, évidemment, soit favorable, mais je crois quand même toujours, parce que je reste positif, optimiste sur la nature humaine, je pense que l'intégration puis l'assimilation sont toujours possibles pour toutes les populations, d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur religion. Et quand vous dites que les sénateurs LR ont voulu mettre dans la Constitution l'héritage judéo-chrétien de la France, mais c'est une aberration. Il faut mettre l'héritage gréco-romain, judéo-chrétien, les Lumières, la philosophie des Lumières, 89, Zola, le 19e siècle. Enfin, c'est une aberration. La France n'était pas seulement judéo-chrétienne d'aspiration.
Comme Rachel Kahn est avec nous ce matin, il voulait écrire encore debout.
Mais l'État français, c'est construit sur ce substrat. Mais rien historiquement.
Non, mais ces questions sont importantes.
Sur la philosophie des Lumières, sur 1789, sur Voltaire et Rousseau.
Oui, mais Voltaire, pardonnez-moi, mais Voltaire et Rousseau sont.
Et les gréco-romains. Mais l'héritage gréco-romain.
Mais justement, c'est dans l'héritage chrétien, mais c'est pas grave.
Ah non, non, il y a.
Dans chaque village, il y a une église.
Le Christ n'était pas né. L'héritage gréco-romain, le Christ n'était pas né.
Quand François Mitterrand se présente en 1981. Il y a une église derrière lui. Où elle est l'église aujourd'hui?
Pour des raisons de communication, c'était habillé, c'était
mais
du marketing.
Mais pas que, il y a des églises en France. Qu'est-ce qu'il y a dans les villages français?
Je suis chrétien, moi. Je vais à l'église. Enfin, vous n'allez pas me donner des leçons de christianisme.
Non, mais on parle d'héritage.
Je suis républicain.
On ne vous parle pas de donner le pouvoir à l'église. On vous parle d'héritage.
Rachel Kahn, à propos de la société malade. On sait qu'une société est malade lorsque les femmes, les artistes et les juifs sont attaqués. Or, ces premiers symptômes commence toujours par l'utilisation de certains mots annonciateurs d'un basculement du monde vers l'immonde. Quels sont aujourd'hui...
C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. En fait, ce livre, c'est un cri du cœur, évidemment, qu'il y a eu cet été avec des attaques d'un influenceur de haine invité aux journées d'été de LFI et des écologistes. Puis, le 7 octobre, et là, j'avais un véritable besoin de parler de ce qui est en train de se passer. Nous sommes encore debout. Mais si nous ne protégeons pas cette République, si nous ne protégeons pas nos fondamentaux, nous commençons à ne plus parler le même langage. Et je pense que c'est plus que les questions de multiculturel, intégration assimilée, nous ne parlons plus le même langage. Alors même qu'on parle cette belle langue, le français, et les artistes sont tellement attaqués aujourd'hui, ils ne peuvent plus créer en liberté, puisque les dogmes tuent leur création, tuent cette liberté et tuent finalement nos humanités et notre manière de nous émanciper. Par rapport à notre héritage des Lumières, justement. Donc moi, c'était un cri du cœur de me mettre aussi dans la peau des autres, dans la peau de ceux qui se font les avocats de la République, mais qui la désarment et qui nous désarment par la même.
Et vous parlez effectivement de Médine, à qui vous venez de faire allusion à l'instant, rescapé ou plutôt rescampé, c'est ce qu'il avait écrit, et je vous cite, « Voilà le jeu de mots effroyable pointé contre moi, dont se gargarise à gorge déployée l'antisémitisme 2.0 ». Après le négationnisme et le révisionnisme, c'est le ricanement à propos de la Shoah qui se fait une place de choix au sein de notre pays. Et l'extrême-gauche, effectivement, avec ce qui s'est passé avec Rima Hassan ces dernières heures.
Oui, bah je ne sais pas ce que je leur ai fait, parce que j'ai une brochette là. Hein. Dieudonné, Médine, Rima Hassan. Alors, est-ce que c'est parce que je suis noire?
Oui, et vous le savez bien, en fait. C'est parce qu'il vous reproche de trahir d'une certaine manière d'où ce qu'il pense vous venez. C'est ça qu'il vous reproche.
C'est parce que je suis libre et c'est parce que je suis aussi une citoyenne qui défend mon pays. Mon pays qui m'a vu naître. Sans la laïcité, je n'aurais pas pu voir le jour. Sans la France, je n'aurais pas pu voir le jour.
Mais il vous assigne à résidence.
Bien sûr. Il ne supporte pas de toute façon que j'écrive. Donc ils me disqualifient et ils me déshumanisent pour que je fasse partie d'un troupeau parce qu'ils estiment que ma couleur de peau leur appartient. C'est de l'esclavagisme intellectuel.
Vous avez échangé parfois directement avec Jean-Luc Mélenchon ou avec ceux qui vous attaquent?
Jamais, puisque de toute façon ils ne dialoguent pas, donc en fait ils n'ont plus les mots. En plus, on voit bien que comme ils n'ont pas les mots, ils passent directement... à l'insulte, donc c'est très compliqué. Et puis, quand on vous met des cibles dans le dos, ces méthodes disqualifiantes, calomnieuses, vous ne pouvez pas véritablement échanger et éprouver notre démocratie.
Moi, ce qui m'étonne, c'est sur des grandes émissions du service public, où parfois il y a des invités mystères, et celui qu'on interroge n'est pas au courant de l'invité avec qui il peut échanger. Si M. Mélenchon, il va faire sans doute ses grandes émissions, si une présidentielle se met en place, et ça serait intéressant de dire, bah, M. Mélenchon, voilà une personne avec qui vous allez inviter, vous n'étiez pas au courant, et ça sera Madame Rachel Kahn. Parce qu'effectivement, ce que vous venez de dire est très intéressant, il refuse le débat de la même manière qu'il refuse de venir sur certains plateaux. À propos de l'extrême-gauche, écrivez-vous, elle fait de notre devise tout ce qui nous divise. Voici l'objectif principal de l'extrême-gauche, le chaos, heurté d'avoir perdu de trop peu les élections présidentielles de 2017 et 2022. Jean-Luc Mélenchon et ses commissaires politiques nourrissent par vengeance tout ce qui peut nous fracturer, créer des camps, voire des langages différents, afin que nous ne puissions plus ni nous entendre ni nous comprendre, après moi, le déluge. Mais la vraie question, c'est celle que posait tout à l'heure Elisabeth Lévy. Est-ce que ça marche, à votre avis, dans l'opinion? Est-ce que ça fonctionne?
Je pense qu'il ne faut pas, être trop candide. Je pense qu'il y a pour une partie de l'opinion, malheureusement, ça fonctionne. Il faut être très vigilant. Et j'attends, moi aussi, les élections de juin pour que l'ensemble des citoyens puissent se mobiliser et sanctionner ces personnes qui nous font du mal.
Mais alors est-ce que, plutôt que d'invoquer tout le temps la République, je suis tout à fait, j'aime beaucoup la République, est-ce qu'à un moment il ne faudrait pas parler de la France ? Est-ce que République, laïcité, c'est pas trop désincarné à la fin des fins ?
C'est galvaudé. Ben merci.
Ah bah pardon, je ne vous ai pas encore lu, Rachel.
Non, 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 mais c'est exactement ce que je dis dans ce livre. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du gouvernement, de ces mots finalement qui vont nulle part et qui sont ronronnants et qui sont au fond la non-assistance à la République en danger. Et c'est exactement pareil pour les gens qui tentent de protéger ce que nous sommes. On tombe dans des refrains qui sont assez désincarnés, qui ne sont plus des mots parlants, malheureusement. Et donc je décortique ces mots-là, République, laïcité, droit, devoir, etc.
France, ça parle France, encore.
Mais justement, c'est pour ça. Et moi, je suis très, très fière d'être française.
C'est vrai que l'immigration de masse post-coloniale qui arrive sur le territoire de France, avec parfois un esprit de revanche, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça peut marcher ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Parce qu'on voit une nouvelle identité, je crois que c'était Alain Bauer qui disait ça tout à l'heure, je ne sais pas s'il le disait à l'antenne ou hors antenne d'ailleurs, que ces jeunes se sont fabriqués une nouvelle identité qui n'est pas la même que leurs parents et que leurs grands-parents.
Qui étaient très bien intégrés.
Exactement. Et ils reprochent parfois même à leurs parents ou à leurs grands-parents d'avoir...
baissé la tête.
Oui.
D'être français.
Baissé la tête, le terme. Donc ça, on est sur des sujets très particuliers. Très singuliers. Alors... quelle est votre analyse ?
Déjà, c'est assez paradoxal parce que, notamment si on parle de l'Afrique, par exemple, on parle des vieux en Afrique qui sont des personnages quand même sacrés. Donc c'est très bizarre, en fait, d'être en France et de pointer du doigt ses parents ou ses grands-parents pour dire qu'ils étaient les Banania ou les Bounty de l'époque. C'est très désobligeant et ça ne correspond pas à la culture de ce continent-là. Après, c'est vrai qu'on est à force, finalement, de renoncement, de lâcheté, de vouloir chouchouter les uns et les autres, de ne pas vouloir offenser. Eh bien, les petits, je suis désolée, il y a des règles. Les jeunes générations, il faut leur insuffler des règles et cette autorité pour qu'ils puissent embrasser le pays et non pas créer une autre forme d'identité ou un autre langage.
Mais elle existe déjà, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces jeunes gens de 20 ans qui se sont construits comme ça ? Je veux bien qu'on reprenne à zéro pour une nouvelle génération qui va grandir, mais qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes gens de 20 ans ?
Une génération perdue.
Ouais. On ne peut pas avoir une génération perdue, c'est des millions de Français.
La question, c'est de savoir si
ce sont des millions de Français.
C'est trop tard.
Vous pensez ? Ça, c'est une question toujours importante. Elisabeth dit c'est trop tard.
Il est minuit et demi ou minuit moins une, quoi.
Oui.
Non, moi, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Mais en revanche, il y a un vrai, comment dire, un vrai examen de conscience à faire de la part de tous les citoyens, et notamment au niveau des financements publics. On parle souvent de l'école, hein. On dit souvent c'est l'école, il faut remettre l'autorité à l'école, etc., etc. Mais ce n'est pas que à l'école, on parle souvent des parents, mais ce n'est pas que les parents pour faire grandir, en tout cas ces enfants qui sont des adolescents ou jeunes adultes, il faut que toutes les strates de la société soient en veille. Et je pense à ces associations sportives, culturelles,
évidemment,
où il se passe des choses.
Mais évidemment.
Et c'est impossible que...
Mais je passe mon temps à parler du sport, parce que c'est un domaine que je connais bien et j'ai des retours. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'islam se conduit lorsqu'il est en situation de majorité. C'est ça qui est intéressant. C'est ça la question clé.
Ça dépend. Ouais. Ça dépend.
Ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est imposé aux uns et aux autres dans un comportement de tous les jours par rapport à une religion qui est très présente pour les musulmans dans ces cas-là.
Moi, ce qui me frappe, c'est que je pense qu'il y a eu, il y a eu quand même un avant et un après Charlie et Bataclan. Et que, paradoxalement, cet après a nourri l'islamisme au dépens de l'islam. C'est ce que je pense, personnellement. Oui, Rachel, on est d'accord. Et moi, je suis frappé, il y a 12 ans, 15 ans, les livres qui paraissaient de jeunes, soit rappeurs, soit autres, sur le soufisme, sur toute cette spiritualité de l'islam. Aujourd'hui, ces personnes-là ont totalement, malheureusement, disparu.
Enfin, au Pakistan, en Afghanistan, en Algérie aussi. Dans le monde musulman, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la France n'est pas un isolat dans le monde musulman dans son ensemble. Je crois qu'il faut arrêter.
Vous avez parlé de l'école, vous avez parlé du sport, etc. Je parle souvent des médias.
Oui.
Quelle est votre analyse? Je ne sais pas vous, par exemple, est-ce que vous êtes reçu partout? Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a des médias, on va les citer, pourquoi pas? Est-ce que, par exemple, Quotidien vous reçoit?
Alors, Quotidien m'avait reçu pour Racé.
Oui.
Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu d'invitation.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que tous les médias ne vous reçoivent pas d'abord? Est-ce que vous avez le sentiment que les médias sont importants dans cette guerre culturelle? Je ne sais pas si c'est le bon mot.
Les médias, c'est fondamental. Et c'est vrai que, on ne va pas se mentir, il y a certains médias. Je pense que mon apparence est bien, ça fait le job. Mais qu'après, c'est dans la pensée où c'est plus compliqué. Rachel Kahn, c'est problématique. Rachel Kahn, c'est clivant. Alors même que je défends notre pays, la France, et que je défends la réparation de notre pays, et que j'essaie de trouver des solutions pour la réparer véritablement. Et effectivement, les médias, lorsqu'on commence à avoir des clans au niveau des médias et des personnes, notamment des écrivains ou des artistes, qui ne peuvent plus y aller, c'est le drame de notre
société. Mais c'est votre cas ?
Bah oui. Bien sûr, c'est mon cas.
France Inter.
C'est-à-dire que, par exemple, on n'imagine pas que vous soyez un jour un juré du Festival de Cannes, ça serait impossible.
Et pourtant, je porte le nom adéquat. Hein.
Oui, non, mais c'est moi, j'aime bien, moi, c'est, comment dire, c'est toujours intéressant parce que c'est des signes qui sont donnés à la société. On pourrait imaginer, par exemple, que vous soyez une année dans le jury du Festival de Cannes, ou un rôle de ce type, un rôle honorifique. Et j'ai l'impression que toutes ces représentations-là sont soumis à des personnalités très précises et d'autres sont exclus. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi?
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que toutes ces notions d'inclusion, de je ne sais pas quoi, ça ne veut absolument rien dire. Enfin, les personnes qui sont incluses, c'est des personnes qui ne font pas de vagues. C'est des personnes qui ont un
impact. Ou qui sont dans le moule.
Ou qui sont dans le moule. Ou qui
ont tant qu'ils ne font pas de vagues, c'est qu'ils sont dans
le moule.
Voilà, ils sont dans le...
En fait, aujourd'hui, ce qui est terrible par rapport à notre humanité, à la française, c'est lorsque vous avez un nom et un prénom, c'est-à-dire une signature, un caractère, vous n'êtes pas dans le moule. Vous êtes vous-même. Et ça pose problème.
On va être avec Jacques Bandeau dans une seconde parce que c'est vendredi. Nous l'adorons tous, bien évidemment. Alors, votre livre est passionnant, hein, Trop de démocratie. Tocqueville nous avait pourtant prévenu dès 1835 dans l'incontournable de la démocratie en Amérique, où il souligne qu'à terme, trop de démocratie pourrait entraîner la tyrannie. Nous y sommes, triste assemblée nationale désarticulée qui supporte tant bien que mal les spectacles indécents de ses représentants de haine. Et puis, on pourra également, sur l'immigration, cette fois du point de vue de la droite, vous écrivez à l'inverse du cochon, tout est mauvais dans l'immigration, marotte ancestrale de la droite dure. L'immigration est la cause de tous les maux, qui dilue l'identité nationale et par là même empêche la France de se défendre de l'intérieur. Parce qu'il s'agit d'une menace pour l'ensemble de la société, les hostilités sont vives face aux flux migratoires.
Oui, parce qu'en fait, j'ai fait dialoguer différents avocats. L'avocat de l'extrême gauche, avec sa ligne, l'avocat de l'extrême droite. Et moi, c'est vrai que, de la droite dure, disons. Parce que l'extrême
droite... Oui, parce que l'extrême droite, je voudrais un jour...
Ça ne veut plus rien dire.
Eh ben, je suis content que vous le disiez, parce que je passe mon temps à le dire.
Oui, oui, voilà. Donc, cette droite dure...
Et même droite dure ne veut rien dire.
Bon, oui, mais en tout cas, je voulais souligner, malgré tout, le fait d'être obsessionnel sur l'immigration. L'immigration n'est pas la cause de tous les maux non plus. Voilà.
Ouais, enfin, c'est quand même peut-être un sacré problème, pardon.
Mais
ça a quand même produit l'islamisme aujourd'hui. C'est quand même en grande partie un produit de l'immigration. Donc, si vous voulez, on a le droit de penser que c'est le problème principal.
Ça dépend parce que justement, le truc quand on est construit de d'ailleurs. On peut se dire qu'on n'est pas forcément un problème non plus.
Ah, mais...
André Valigny, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui dit « Lorsqu'André Valigny affirme que les grands-parents des origines maghrébines étaient bien intégrés, c'est faux. Les grands-parents baissaient la tête, ils étaient invisibles, ils vivaient en vase clos, ils allaient trimer, ils rentraient dans des cloaques, mangeaient et prenaient un verre dans des établissements tenus par des maghrébins. On ne les voyait pas ailleurs. Bref, ils ne dérangeaient pas. » Voilà ce qu'il nous dit. Et on voit cet esprit de revanche qui infuse dans la société française, et effectivement, ce qui pose les soucis dont on parle
régulièrement. Mais c'est la victimocratie qui pose un problème.
Et oui,
c'est-à-dire, en fait, et je sais que là, je suis attaquée par cette Rima Hassan par rapport à ça. C'est-à-dire que elle voudrait qu'il y ait un génocide à Gaza. Elle voudrait qu'il y ait cet apartheid. Elle voudrait que ce soit la colonisation d'Israël, parce que finalement, comme elle a le monopole de la lutte contre le racisme, elle voudrait qu'il se passe ça. Donc ce qui se passe à Gaza, c'est terrible. Mais de là à dire que c'est un génocide, en fait, c'est une guerre qu'elle mène contre le réel. Il mène une guerre contre le réel. Et il mène une guerre aussi contre l'humanisme et l'universalisme.
Alors, comme je sais que l'ARCOM nous écoute,
oui,
et que les mots que vous venez de dire, elle voudrait que... elle pourrait dire qu'elle ne veut pas précisément qu'il y ait un génocide. Le modérateur que je suis intervient pour dire qu'on peut imaginer que Mme Rima Hassan ne voudrait pas, que sais-je, etc. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Chaque propos doit être modéré de ce type. J'ai encore reçu récemment, lorsque Éric Zemmour sur ce plateau avait dit quelque chose qui lui appartenait, chaque chose qui est dite de ce type, c'est un très bon exemple, ça. C'est-à-dire que vous prêtez des intentions, vous interprétez, et moi je peux être d'accord avec cette interprétation, mais ce n'est pas le sujet.
D'accord.
Ce que vous venez de dire sur Rima Hassan, comme vous le dites à la forme de l'indicatif futur, elle vous conditionnel,
on pourrait penser que ça passerait.
Je pense que l'ARCOM, en tout cas, qui nous écoute et qui prend des notes sûrement, sera content de cette intervention que je viens de faire et qui permet... Jacques Vendroux, dans une seconde. Alors, vous parliez de Rima Hassan suite aux propos tenus par Rima Hassan à mon compte diffusé publiquement hier soir sur ce réseau et qui porte atteinte à mon intégrité. Maître Richard Malka est mandaté pour déposer une plainte pour injure publique. Dans notre pays, il existe des règles et des lois qui obligent peut-être encore plus les candidats à des élections de ce qui l'on est en droit d'attendre, un peu plus de hauteur de vue, un peu moins d'outrance. C'était hier soir, ça, les propos de Rima Hassan ?
C'était hier matin.
Hier matin, et on rappelle ce qu'elle a dit ou on ne le dit pas ?
On peut le dire, si l'ARCOM nous écoute, elle a dit que Rachel Kahn est une ordure. Ordure. Hein.
Elle a dit Rachel Kahn est une ordure.
Oui.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec la même Rima Hassan qui a porté plainte contre Yohann Uzaï.
Écoutez, les gens. Député européen.
Voilà, les gens. Après.
Une chaîne infâme selon Jean-Luc Mélenchon.
10h27, Jacques Vendroux, on est très très en retard, on a beaucoup de choses. Jacques, générique.
J'adore.
C'est trop drôle.
Mais j'y crois pas.
C'est tous les sports olympiques. C'est tous les. Dites-moi, il y a un signe derrière. Bonjour Jacques, vous êtes où et vous faites quoi?
Il nous fait un signe.
Ça va, Pascal?
Mais ça va très bien, mais vous faites quoi?
J'ai un peu de mal à articuler parce que la combinaison est très serrée. Je m'en excuse. Je suis sur la scène à la hauteur des Mureaux où s'est déroulée des épreuves de compétition extrêmement importante, la voile, en 1924, au premier jeu. Donc j'ai voulu avoir une pensée pour les athlètes de 1924 et vous dire qu'il y aura également ici la compétition des nages en eau libre, mer, rivière ou lac. C'est une épreuve ajoutée au jeu de... C'est arrivé au jeu de Pékin en 2008. 10 km à nager pour les athlètes, ils mettent environ 2 heures. Donc je voulais simplement parler de ces athlètes hors normes. Marc-Antoine Olivier avait terminé 3e en 2016. Autre Français de haut niveau, Stéphane Leca, Axel Raymond, Stéphane Clos, Aurélie Muller et le Chi des Mureaux en du 10.
Vous n'allez pas nous faire la noire, mais si c'est possible. Voilà. Bon, est-ce que vous vous baignez? Vous allez dans l'eau?
Bien sûr.
Allez, allez-y.
Non, honnêtement, je ne me baigne pas, j'ai 3 degrés.
Bah attends, mais alors pourquoi vous avez mis la combinaison et les palmes? Dans l'eau, ah oui, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau.
C'est trop froid.
Bon, et on revient dans une seconde. Mais est-ce qu'on peut élargir un peu? Parce que vous êtes beau avec vos palmes. Regardez comme vous êtes beau. Ah, Jacques Vendroux.
Mais là, il ne va pas avoir froid avec ça.
Mais non, vous n'allez pas avoir froid du tout. Là. Et puis il y a des petits signes. Allez voir un petit signe derrière, Jacques.
Il y a le signe.
Ça mord. Oui, mais là on ne vous entend pas très bien aujourd'hui parce que le son ne passe pas très bien. Mais il y a un petit signe. Il y a un petit signe. Vous voulez pas aller voir?
Regardez, il y en a plein de signes, regardez.
Oui, bah on les regarde, c'est pour ça que je vous dis d'aller les voir. Bon, on vient vous revoir et on veut vous voir dans l'eau quand on revient. Docteur Millot, une émission à retrouver tous les samedis matin à 10h30 sur CNews. L'émission de ce week-end est consacrée aux pervers narcissiques.
Ah.
Est-ce que vous connaissez, sérieusement, est-ce que vous avez rencontré un pervers narcissique?
Il paraît qu'il y en a plein partout.
Est-ce que vous en avez rencontré un?
Non, moi non.
Georges?
Non.
Rachel?
Plein. Oui.
Dans la vie privée ou dans la vie...
Dans les deux, professionnels, privés.
Elisabeth?
Non.
Oh, j'en ai déjà certainement croisé.
Bon, et eh ben alors.
Bon, toi, tu vous regardes.
Bon, alors là, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas pervers narcissique, c'est Pascal. Hein.
Professionnellement, j'en ai rencontré beaucoup, bien sûr.
Bon, alors en fait, c'est pas du tout consacré au pervers narcissique. C'est consacré à chirurgie esthétique. Ah, et chirurgie esthétique. Mais bon, est-ce que les pervers narcissiques font la chirurgie esthétique? Bon, voilà. Alors écoutons, Brigitte.
Quand on a parfois des boules, des choses comme ça, je vais vous montrer une image d'une patiente qui a priori n'était pas contente puisque ses lèvres étaient trop gonflées avec des boules. On a l'antidote pour ça?
Absolument. On voit que cette patiente a bénéficié probablement d'un traitement par hyaluronidase. L'hyaluronidase est une enzyme qui va casser l'acide hyaluronique. Et donc cette patiente, elle a une vraie déformation de sa lèvre supérieure avec des boules. Et donc heureusement, elle a récupéré la lèvre qu'elle avait avant. Et très souvent, les patientes que je vois, elles ont une belle lèvre de base.
Ouais.
Donc, elles regrettent leur acte.
Après, quand il y a des erreurs, sachez qu'on peut rattraper, récupérer, réparer donc les erreurs.
Est-ce que quelqu'un a fait de la chirurgie esthétique sur ce plateau? Il ne le dira pas, je pense.
Bah, sinon, le résultat ne serait pas fameux pour certains d'entre nous.
C'est vrai? Non, personne de...
Joker.
Quoi de Joker?
Ah.
Mais mon Joker.
Ah, donc vous avez fait la chirurgie esthétique?
Vous avez fait...
J'ai dit Joker.
Donc ça veut dire que vous en avez fait?
J'ai dit Joker.
Ah oui.
Vous avez fait quoi, Georges?
Et le secret médical?
Et le secret.
Et vous?
Alors par contre,
tu peux là. Comme
ah
ça.
Oui. Ouais.
Bah, mais, attends, Georges,
il est moins fatigué.
Non mais Georges, il est beau.
Ah, il est très beau, Georges.
Ah, oui,
Georges, il est très beau.
Il est très beau.
Il a une petite quarantaine d'années.
Sacré
une
succès,
quarantaine d'années, Georges. Bon, l'essentiel chez Labro, votre émission à retrouver ce samedi à 12h55 sur C8. Philippe Labro reçoit Patrick Mahé, qui a longtemps dirigé la rédaction de Paris Match et qui sort le 25 avril un livre qui raconte les secrets, la légende de Paris Match chez Plon.
Tout le monde cherchait une formule sur 76 quand Daniel Filippaki a racheté le titre et que Roger Théron est venu, qu'il a rappelé. Il cherchait une formule autour de l'écriture. Et le poids des mots est arrivé assez vite, en fin de compte. Mais pas le choc des photos. Le choc des photos est né un soir de bouclage, une nuit de bouclage. On bouclait à plus d'heures, évidemment, à cette époque-là. Lorsque le directeur artistique, mécontent du départ inattendu d'un de ses maquettistes, qui partait un peu à la sauvette, lui a arraché la maquette du mur sur lequel on voyait le journal, défilait le journal, l'a roulé en boule et lui a balancé comme ça en disant « Comment tu pars à cette sortie? De quel droit tu pars ?» Et Roger Théron, ouvrant la porte, dit « Mais ça, Guy, c'était Guy Tria, c'est le choc des photos. » Et c'est ainsi qu'est née la devise, le poids des mots, le choc des photos.
Poids des mots, les chocs des photos. Merci à Jacques Vendroux. Je ne vous demande pas, Jacques, si vous avez fait de la chirurgie esthétique. Pas ce matin, en tout cas.
Ça va?
Vous m'inquiétez, Jacques.
Moi aussi.
Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à l'eau?
Bon, n'oubliez pas, Pascal.
Pourquoi vous n'êtes pas...
Le Variété Club de France joue mercredi à plaisir pour les pièges d'eau. Je voulais l'annoncer, voilà.
Je suis d'accord, mais on voudrait vous voir à l'eau. Allez au moins mettre les pieds dans l'eau.
Ah ben allez-y, il fait 3 degrés.
Mais les pieds, vous avez des palmes.
Vous êtes
les pieds dans l'eau.
Pas courageux.
Vous êtes courageux mais pas téméraire, comme disait ma grand-mère. Allez-y.
Il a fait du ski nautique.
Vous avez fait du ski nautique, franchement.
Ah oui, il était totalement
vous
dans
étiez,
l'eau.
Vous étiez complètement dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il se retourne. Madame, monsieur, bonsoir. Alors que... Ah oui, c'est le bimadome Michelin, là, si vous voulez.
Ah, il marche comme un pingouin, là.
Ah, il marche comme un pingouin. Ah oui, il recule et il va se tromper sur les signes. Bon, bah écoutez, on vous laisse, hein, cher Jacques. Hein, c'était un...
J'y vais. On vous envoie la vidéo.
Bon, merci Rachel Kahn.
Merci.
Encore debout, La République à l'épreuve des mots. Vraiment, c'est un livre absolument passionnant.
Édition de l'Observatoire.
Exactement, qui est un très bel éditeur.
Oui.
Et puis.
Et je voulais remercier Muriel Beyer, qui fait un travail formidable.
Ce que vous dites est tellement intelligent et tellement bienveillant, et que ça nous fait du bien.
Merci.
C'est la fin de la semaine, a priori, vendredi. Donc, nous allons remercier tous ceux qui étaient avec nous cette semaine, et notamment Laurent Prat, qui était à la réalisation, Ludovic Liebert, qui était à la vision, Maxence, qui était au son, à la programmation, et c'est important de les citer, Nicolas Nissim, qui fait un travail formidable, Magdalena Derwisch, formidable, Lino Vitez, Louis Lallemand, Marine Lançon, Félix Perola étaient là aussi. Passez un excellent week-end. Ce soir, c'est l'ami Elliot Deval qui sera là. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Merci à tous. Bon week-end.
Bon week-end.
Et à lundi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.